tabasser, les agressions à la sortie des établissements, c'est pas une nouveauté. Non,
mais là, ça, attendez, ça se passe à l'école.
On parle de l'école.
Ça peut être sur le trottoir.
À l'école, ensuite, c'est arrivé à l'école, il y a des morts, il y a des enfants qui se prennent des coups de stylo dans les yeux. Enfin, c'est très, très courant. C'est, on découvre rien aujourd'hui, c'est quand même incroyable.
Oui, oui. Jonas Haddad.
Bon, la première chose, c'est comme dans un diagnostic médical, il faut qu'on partage tous le diagnostic. Malheureusement, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a des chiffres qui sont extrêmement clairs. L'INSEE, le ministère de l'Intérieur, plus 30% d'augmentation sur les violences.
Oui, par rapport à quelle année de... Plus 30%.
Pardon ?
Plus 30% par rapport à quelle année ?
Par rapport à avant le Covid.
Voilà. C'est une période assez courte. Hein.
Avant le Covid.
Oui, c'est intéressant parce que
vous voulez combien de temps ? 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Et dans ce cas-là, si on fait 10, 20, 30 ans, on va retrouver les mêmes chiffres.
Ça vérifie.
Donc, premièrement, c'est pas vérifié, c'est public.
Non, c'est premièrement. C'est vérifié, ça. C'est contraire.
Deuxièmement, une fois qu'on a partagé ce diagnostic, l'idée n'est pas de dire, finalement, il y a la droite, l'extrême droite, il y a les macronistes et on peut rien faire. C'est de proposer des solutions très concrètes. Typiquement, vous avez une ministre de l'Éducation qui a été ministre de la Justice avant en plus, donc elle sait absolument ce qu'il faut faire. Les choses qu'il faut faire, elles sont extrêmement bien connues. D'abord, c'est qu'il faut réformer encore une fois, malheureusement, ce qui existe, à savoir l'excuse pénale des mineurs. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des gens qui ont 14 ans, qui se comportent, et moi j'ose le terme, si vous n'osez pas le terme, mais quand on voit les images d'une jeune fille qui se fait massacrer sur un trottoir, qui se comporte, oui, comme des sauvages. Non, et moi j'ose le terme. Et donc ça, moi je. Excusez-moi, si vous appelez ça, je sais pas, vous appelez ça comment, des petits anges ? Non, bon, moi, quelqu'un qui met la tête sur un trottoir et je pense à la mère qu'on va avoir au téléphone tout à l'heure, si ces gens-là avaient été sanctionnés plus durement, parce que vous allez voir, comme c'est le cas aussi statistique officielle, 80% en général sont dans des états de récidive. Donc c'est en général, et d'ailleurs c'est ce qu'on dit toujours, on dit, oh vous savez, dans un quartier, il y a toujours une petite minorité qui fout la merde. Mais c'est vrai, il y a toujours une petite minorité. Dans un quartier, dans un pays, ce que vous voulez. Donc ça c'est un premier point. Donc il faut réformer cette ordonnance pénale des mineurs. Deuxièmement, je dis à Madame Belloubet, qui a été ministre de l'Éducation, qui a été ministre de la Justice, Madame Belloubet, vous n'avez pas changé ce qu'avait mis en place Madame Taubira, à savoir l'interdiction des peines planchées. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez quelqu'un qui est en récidive, on sait que c'est 10% des gens qui commettent 90% des actes de délinquance. Madame Taubira, elle arrive, elle dit bon, allez, c'est pas grave, lorsque vous êtes en récidive, vous revenez comme si c'était la première agression. Non, ce n'est pas possible. On sait qu'il y a des gens, ils sont structurellement, ils ont besoin d'avoir un cadre pour leur dire.
Vous avez dit qu'il y a cette minorité de sauvageons. Clairement, c'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour justement qu'est-ce qu'on fait
Non, mais je fais deux propositions.
D'autant plus, vous êtes avocat en plus.
À votre micro. La première chose, c'est on enlève l'excuse pénale de minorité pour des gens qui sont aujourd'hui jusqu'à 16 ans, à 14 ans. Si monsieur veut considérer que ce sont des gens très bien lorsqu'ils mettent la tête sur le trottoir, libre à lui, il est du côté des agresseurs. C'est pas mon cas, moi je suis du côté des victimes. Deuxièmement. J'enlève l'excuse pénale de minorité. Et deuxièmement, pas intégralement, mais pour ceux qui font ça. Et deuxièmement, je rétablis les peines planchées, car ça permet de taper plus fort sur ceux qui tapent plus fort sur les...
Tiens, j'aimerais entendre nos auditeurs. Je vais marquer la pause, je vous donnerai la parole. Il y a Gamal Avina qui m'a demandé la parole, ensuite c'est Richie Thibault. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Voilà, est-ce que vous considérez que ces jeunes, c'est des sauvages? Ou comme Richie Thibault, peut-être, qui est une... Voilà,
des petits anges.
Petits anges, je sais pas, il a pas dit ça, mais en tout cas. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Cette affaire est très grave. Moi, me concernant, elle est très grave quand même. On peut pas laisser passer, évidemment, ce type d'événement. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, la redille. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés avec Jonas Haddad, les informés avec Richie Thibault et enfin avec Gamal Abina. Dans l'ordre, il y avait Gamal Abina qui avait réclamé la parole et ensuite après Richie Thibault. Je voulais absolument qu'on avance parce qu'on a plusieurs sujets qu'on doit absolument traiter. Gamal Abina.
Alors deux choses. La première, quand il y a un acte de sauvagerie, on peut pas, sans parler de sauvageons, parce que ça c'est caractérisé des gens, mais de sauvagerie de la part de personnes, il faut les nommer. La seconde, moi je suis contre le principe de la prison. Les peines planchées, tout ça, c'est pas ce qui fait la différence. J'ai fait une étude assez longue là-dessus. Les peines planchées ont été retirées, donc les juges jugent plus durement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 123 détenus en prison pour 100 places. L'Allemagne, c'est 87% de place, ça vous donne une idée. Donc, il y a une ancienne ministre qui a dit, de la justice, qui a dit, la problématique, c'est que plus on construira la prison, plus on va la remplir. Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est que si on veut finir avec ce genre de phénomène, c'est pas le fait de taper. Aux États-Unis, il y a la peine de mort pour les criminels. Ça n'a jamais fait baisser la criminalité. Il faut 30 000 balles par an.
Il faut
donc
faire quoi?
La dissuasion, elle se fait en amont, d'abord, faire en sorte d'éduquer, d'isoler les individus qui font la pagaille ou qui posent problème, et de les obliger, quand il y a des fautes qui sont commises, non pas aller en prison. Parce que moi, je suis contre la prison par principe, ça sert à rien. C'est une fabrique de délinquants, de criminels. Les obliger à travailler. Moi, je suis pour le retour de l'obligation de travaux. Pas les trucs, pas les trucs gentils, pas les petits travaux d'intérêt généraux, mais de vrais travaux qui sont difficiles, on parle de pénibilité, et qui vont les humilier pour les obliger à ne plus recommencer.
Parce que quelqu'un qui a violé, qui a tué,
Je parle à l'avocat.
Judith, vous êtes contre le principe de la prison.
Non.
Quelqu'un a violé, ou quelqu'un a tué.
Je parle à un avocat intelligent, j'attends de l'avocat intelligent qui ne fasse pas le coup du mélange des genres. On n'est pas à CNews, tout simplement pour dire que.
Non, vous y êtes trop fréquemment pour le savoir.
Non, c'est pour ça que je dis on n'est pas à CNews, je sais comment il parle.
Il y a d'un côté.
Mais c'est important. Il y a d'un côté ce qu'on appelle les délits, qui sont jugés par une institution qu'on connaît très bien, d'accord, le tribunal judiciaire. Et de l'autre côté, les crimes qui sont jugés aux assises.
Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, les délits ne sont pas emprisonnés.
Non, mais ça, non, ils sont emprisonnés. Ça dépend quel type de délit. Ça dépend quel type.
Ben non, depuis Taubira, ils sont plus emprisonnés.
Non, ça dépend quel type. Il faut aller au tribunal pour ça.
Si, vous y allez. Ah ben, je sais, j'y vais un peu plus que vous-même.
Oui, ça dépend de la période. Moi, j'y allais beaucoup à l'époque pour les études, mais ça m'inquiète
simplement. Pour vous.
Non, ce que je veux dire simplement, c'est que ne confondez pas crime et délit parce que là, c'est trop facile. Il ne faut pas faire un package. Ensuite, évidemment.
Donc vous n'êtes pas contre le principe de la prison.
Pour un criminel, non, puisqu'il est dangereux.
Et donc vous considérez que celui qui met la tête sur le trottoir,
c'est pas un criminel.
Non, c'est pas un criminel.
C'est pas un criminel. Un crime, c'est quoi? C'est tuer, c'est violer.
Ah oui,
il n'a pas tué. Il n'a pas tué.
Mais elle a failli mourir.
Donc,
est-ce qu'on va voir la mère au téléphone tout à l'heure?
Normalement, oui.
Okay. Vous allez lui dire.
Non, mais je lui dis.
Vous allez lui dire que vous ne voulez pas que ces gens-là aillent en prison.
C'est pas ce que j'ai dit.
Vous allez lui dire.
À mon avis, il aura mis une mère de famille à remonter.
Il faut caractériser les faits. Ça n'est pas un criminel. Il ne faut pas tout mélanger.
En plus, vous êtes magistrat.
Mais pas magistrat, c'est la loi. Je parle des choses évidentes. C'est pas un criminel.
Bon, alors.
Faites attention pour ça.
Pour répondre à l'avocat en face qui bave des allégations accusatoires à mon encontre, j'aimerais lui poser une question. Est-ce que dans son parti, enfin vous savez que dans votre parti politique, les Républicains, il y a Madame Nadine Morano qui a un enfant qui commet régulièrement et dernièrement qui a commis il y a quelques mois un refus d'obtempérer sous cocaïne. Est-ce que vous allez le qualifier de sauvage? Voilà ma première question. Ensuite, sur la question du biais pénal, moi je suis convaincu effectivement que la solution pour des adolescents qui ont entre 12 et 14 ans, elle ne se situe pas du côté pénal, parce que si vous les envoyez en prison effectivement, eh bien ça va les endurcir. Ils vont en ressortir encore plus sauvage, pour reprendre vos termes, bien que vous ne maîtrisez pas ce terme, car en réalité sur le plan sémantique, il ne signifie pas cela, mais bon, ce serait prêter trop d'intérêt à votre méconnaissance sémantique des choses. Mais sur la question, pour moi la solution elle se trouve du côté de l'activité.
Parti,
si on ne propose pas d'activité à ces jeunes sur le plan culturel, sur le plan éducatif, sur le plan du travail, effectivement le manque de perspective conduit à la violence. D'accord. Et c'est l'abbé Pierre qui le disait, voyez, un homme d'église, il disait que face à la misère sociale, face à la détresse psychologique, quand on n'est pas en activité, eh bien effectivement on devient violent et c'est inéluctable. Et il faut effectivement des repères sur le plan moral, sur le plan religieux aussi.
Et vous répond. Jonas Haddad.
Cette rhétorique vieille, mais c'est bizarre parce que vous êtes un jeune, vous avez un esprit de vieux dans un corps de jeune. C'est incroyable. Vous avez une rhétorique, vous avez une rhétorique digne des années, vraiment même 70 intermondialistes.
Vous parlez dans la dominante.
Vous me parlez de mon parti.
Lui il est vieux. Regardez la moyenne d'âge des députés de votre groupe, les Républicains à l'Assemblée nationale.
Vous voulez que je réponde ou pas?
Allez-y.
Voilà, souffrez donc ça. Vous parlez de mon parti. Bon, d'abord, vous dites que vous êtes d'un parti politique. Je ne sais pas ce que c'est que votre parti politique. Je crois qu'il y a
un collectif politique.
D'accord, je crois qu'il n'y a pas de député.
Moi, je suis
d'un parti politique hérité des valeurs gaullistes.
Ah, vous faites des accusations pour
répondre. Et quand vous parlez, vous voulez que je vous réponde ou pas? Quand vous parlez de Nadine Morano par rapport au fait qu'elle a eu son fils, je ne le savais pas, j'ignorais, vous voyez, vous me l'apprenez. Et je ne vois pas le rapport avec la sauvagerie, puisque la sauvagerie, je la caractérise à partir du moment.
Laissez-le.
C'est pas possible.
Mais attendez, vous avez écouté. Donc,
voilà. Donc la sauvagerie,
c'est aussi la notion du
la sauvagerie, c'est dans le rapport à l'autre. Quand quelqu'un consomme de la drogue et qu'il a envie de se faire du mal, eh ben malheureusement, moi je ne qualifie pas ça de sauvage.
Qu'il fonce dans les gens, dans la
rue. Non, c'est ma seule réponse à avoir. Si vous comprenez pas ça, je vais avoir du mal avec vous.
Deuxièmement,
le fait de dire et de citer l'abbé Pierre, vraiment qui n'a absolument rien à voir, sur le fait de dire que la violence est due à de la misère sociale, je peux vous assurer que ça fait beaucoup de mal à plein de familles et ça a été mon cas. je ne sais pas, dans une famille de misère, mais dans une famille de gens modestes, de gens moyens, etc. Et je peux vous assurer que quand on inculque des valeurs à ses enfants, le fait d'avoir une condition sociale ne provoque pas de la violence. Et ça, ce que vous faites, c'est assigner des gens qui ont un revenu modeste à de la violence. Moi, je considère dans les quartiers, dans les territoires ruraux, il y a des gens qui éduquent bien leurs enfants et qu'on n'est pas obligé de passer dans la violence parce qu'on a une misère sociale. Donc arrêtez avec ce truc de gauche à la con qui n'a jamais marché.
Mais vous déformez mes propos, arrêtez.
Devenez un jeune avec les réalités d'aujourd'hui. Parce que vous savez ce que vous faites. Souvent les gens se disent, pourquoi le RN il monte? Comment on peut faire pour que le RN il descende?
Non, mais attendez,
parce qu'on entend des choses comme ça.
Vous allez me la prendre, vous allez pas me la prendre, d'accord? Moi je viens effectivement d'un quartier populaire.
Et vous êtes
classé en zone prioritaire. Écoutez, je viens d'un quartier. Bon, vous me laissez répondre, je viens d'un quartier populaire. Non, parce que ça m'agace quand j'entends ça. Moi je viens d'un quartier populaire classé en zone prioritaire. Et oui, effectivement, les gens de ma famille, les gens qui sont en détresse sociale, eh ben ils sont conduits à la violence. Quand ils n'ont pas de perspective, quand ils n'ont pas de travail.
Vous êtes conduit
à la violence. Et effectivement, vous faites du révisionniste quand vous dites que l'abbé Pierre n'avait pas cette position.
L'abbé Pierre,
il disait qu'effectivement, quand vous êtes dans une situation de perspective, de détresse, que vous n'avez plus aucune perspective, bien naturellement,
vous tabassez une jeune femme.
Mais c'est pas ce que je vous dis.
Mais on parle de ça.
Vous déformez mes propos. Je vous parle de la question de la violence.
Qui se fait démonter
mais
la
si
tête.
Vous voulez faire du commentaire, du simple commentaire de fait d'actualité sans s'interroger la racine des choses, vous avez un problème. Vous n'êtes pas fait pour faire de la politique.
D'abord, il faut un peu de nuance dans tous les propos. Alors là, l'abbé Pierre n'avait pas dit, c'est pas comme ça qu'il a dit, il a dit que la misère peut engendrer. Ça ne veut pas dire ça engendre nécessairement, ça peut engendrer. Après, effectivement, l'extrême droite.
J'ai pas dit que ça engendrait systématiquement.
Non, c'était dit comme ça, mais tu vas le prononcer. Mais ce que je veux dire, c'est que l'extrême droite, qui se drape toujours dans ses postures racistes et qui veut faire en sorte d'essentialiser, dit que la misère sociale n'existe pas dans la ruralité parce qu'ils seraient français en substance et que ça existe dans les quartiers parce qu'ils sont d'origine étrangère. C'est une imbécilité incroyable et ça veut dire qu'on méconnaît l'histoire de France. La misère peut engendrer effectivement de la violence, peut engendrer des rives et je prends l'exemple très concret. Les gens ont oublié le mot rue de coupe-gorge. Les rues de coupe-gorge, c'est des rues dans lesquelles on pouvait se faire détrousser en se faisant égorger par des gens qui étaient pauvres pour avoir de l'argent. Donc cette réalité de la pauvreté liée à la violence, c'est évident. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on devient violent, ça n'a pas été mon cas, mais c'est vrai que souvent des gens dérivent dans la violence parce qu'ils sont dans l'oisiveté, la misère et qu'ils n'ont pas de perspective.
Allez messieurs, s'il vous plaît, on passe à ce second sujet. Le sujet est toujours récurrent, il est d'actualité, il le sera toujours. Il ne faut pas s'interdire de l'utiliser, vous savez, c'est les députés LR qui débattent de la motion de censure. Alors, vous savez quoi, il y a eu le budget qui a été très contesté, difficile évidemment. Ceux qui sont montés au créneau, c'est les Républicains qui ont taclé Monsieur Bruno Le Maire. Et puis, vous savez quoi, les Républicains, les députés ont décidé d'avoir une opportunité pour faire tomber coûte que coûte le gouvernement. On en parlera. Bah, on va voir. On en verra. Alors, en utilisant les motions de censure. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, la redille. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés, 10h40 avec Jonas Haddad qui est un acteur politique des Républicains, conseiller régional mais également aussi avocat. Avec Richie Thibault qui est le co-porte-parole de la PEPS. Et ensuite le porte-parole du mouvement MDC, c'est Gamal Abida. C'est parti, vous savez quoi? Séquence, dernière ligne droite, nous allons parler. Je reçois pas mal, beaucoup de messages en concernant. Figurez-vous Richie Thibault, beaucoup sont d'accord avec Jonas Haddad. Et aussi sur les travaux d'intérêt donc les généraux concernant la proposition de Gamal Abida. Mais j'ai l'impression que
vive la démocratie.
J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, je regarde que Jonas l'emporte un peu sur le fait que effectivement, il faut durcir. Voilà.
C'est
pas moi qui le dis, c'est les messages que je reçois en temps réel. Donc,
vous savez, dans l'histoire, moi, si je suis étudiant en deuxième année d'histoire, ceux qui sont du côté du juste sont souvent minoritaires.
Oh, c'est beau ça. Dixie Jésus.
Il ne faut pas s'interdire. Donc, on va parler des députés LR. Vous savez quoi, qui veulent se taper du macronisme, mais surtout, ils veulent faire tomber le gouvernement. Vont-ils y arriver? Mais justement, là, un républicain, conseiller régional, Jonas Haddad. Alors, que se passe-t-il au sein des LR? C'est quoi la stratégie?
La stratégie a toujours été celle-ci. C'est-à-dire qu'en gros, le gouvernement propose, puisque en fait, Emmanuel Macron pique à droite et pique à gauche, que ce soit des hommes ou des idées. D'accord? Donc, quand il y a des idées qui vont dans le sens de ce qu'on a toujours défendu, par exemple, quand c'était la réforme des retraites, moi j'ai toujours dit, la réforme des retraites, je l'aurais votée, je ne suis pas parlementaire. Bon. Là, en fait, il y a un truc qui est assez incroyable, c'est que notre pays atteint un déficit record. D'accord? Là, pour le coup, c'est chiffré. C'est évident. Et qu'on a de l'autre côté, notamment un gouvernement qui vous explique que pour pouvoir combler ce déficit record, on va aller taper ce qu'on appelle mais vraiment, c'est même quasiment une insulte, la rente des gens. C'est quoi ? Ouais. C'est les livrets A. Attendez, vous mettez quelques euros pour votre gamin sur un livret A, c'est les assurances-vie, vous évitez de vous faire étrangler fiscalement en mettant sur une assurance-vie pour quelqu'un, et on va aller taper ça pour compenser la mauvaise gestion du gouvernement ? Bah ça, nous ne sommes pas d'accord. Voilà. Donc on le dit, je rappelle qu'un certain nombre de médias...
C'est juste.
Et vous, normalement, vous, c'est pas votre cas, mais un certain nombre de médias nous vendaient... C'était quoi, Macron ? Le Mozart de la finance.
La blague.
Aujourd'hui, on a un déficit record, et on le dit pas assez, parce que je sais que dans vos éditeurs, il peut y en avoir. On a un record, ces derniers temps, de défaillance d'entreprise. On n'a jamais eu, depuis le Covid, post-Covid, etc., on n'a jamais eu autant de faillites d'entreprise. On a le chômage qui repart. On avait dit que le chômage qui repart à la hausse. Et là, on nous sort un budget comme ça, alors qu'on nous avait dit, vous vous souvenez, il y a 6 mois, vous allez voir, le déficit, ce sera de temps.
Donc vous allez déposer des motions de censure à tout va. C'est ce que vous allez faire.
On a menti.
Je vous pose la question.
On a menti. Les parlementaires, moi je ne suis pas parlementaire, mais les parlementaires de mon parti, en tout cas, quand Éric Ciotti le dit, en général, je pense qu'il le fait, ils vont déposer des motions qui auront vocation à dire comment vous dire, le budget d'un gouvernement, c'est le squelette. Le squelette, il est vraiment là, il est vérolé de partout. Donc on a un problème et donc il faut qu'on en tire des conséquences.
Moi, je me demande souvent, voyez-vous, si les Républicains ne seraient pas le quatrième groupe composant la majorité présidentielle. Car lorsque l'on constate les débats parlementaires, il s'avère que la majorité, le gouvernement, a violé à de multiples reprises la souveraineté du Parlement avec l'usage de multiples 49.3 sur la réforme des retraites, mais également sur les textes budgétaires. Et moi, ça m'interroge. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un texte budgétaire qui est adopté par 49.3 et qui conduit à une situation budgétaire complexe, pourquoi un parti qui est censé être un parti d'opposition ne vote pas les motions de censure présentées ? En ce sens, moi, je ne vois pas chez les Républicains, et je le dis de manière très politique, hein, non pas de manière injurieuse, un parti d'opposition. J'y vois une opposition de pacotille, très complaisante avec le pouvoir, qui est incapable de traiter politiquement les problèmes d'orientation budgétaire qui conduisent au déficit. Ça fait plus de 7 ans de mandature où ils sont présents depuis l'arrivée de M. Macron. Il n'y a eu aucune proposition sérieuse en la matière. Et puis, quand bien même ils présenteraient une motion de censure, ils feraient en sorte de présenter une motion de censure qui ne puisse pas être votée par les autres groupes d'opposition. Et je vois là quelque chose d'assez problématique et une volonté de ne pas faire tomber le gouvernement. Les Républicains savent pertinemment que si leur motion de censure est votée et qu'ils font tomber le gouvernement, eh bien ils vont se prendre une ramasse électorale sans précédent.
Alors regardez, excusez-moi de vous contredire, mais il y a eu une seule motion de rejet qui est passée depuis le début du quinquennat Macron, c'est celle qui a été présentée par les Républicains, c'était il y a un an. Donc ça, déjà, ce que vous dites est faux, puisqu'il y a eu la seule motion de rejet qui a été contre le gouvernement qui est passée, c'était celle des Républicains.
Je vous parle de motion de censure, pas de motion de rejet.
C'est pire. La motion de rejet,
c'est pire ou c'est moins pire. Je vous dis, c'est pas la même chose.
Vous savez pourquoi Elisabeth Borne est partie ? Parce qu'elle s'est prise une motion de rejet de la part des Républicains. Donc d'abord, ce que vous dites est faux. Deuxièmement, cette motion de rejet proposée par les Républicains, elle a été votée par tous les autres groupes politiques. Donc ce que vous dites est faux également.
Encore une fois, je vous parle de motion de censure, pas de motion de rejet.
Oui, mais la motion de censure est plus léger que la motion de rejet.
Non, mais la question, c'est pas la question de la légèreté.
Il faut peut-être faire les études politiques aussi. Non, mais là, la réalité, pour le coup,
Gamal Abinard.
Je m'en trouve à défendre la droite, quelle horreur. Mais dans tous les cas, non, c'est vrai que quand on dit qu'ils ne sont pas dans l'opposition et qu'il y a effectivement l'action d'opposition qui a fonctionné, il y a un peu l'opposition.
Moi, j'allais dire qu'il y a. C'est grâce à eux que la réforme des retraites est passée.
C'est intéressant que je finisse. Et donc, j'allais dire simplement, c'est qu'il y a une chose intéressante, ce que vous avez dit, Jonas Haddad, c'est le fait que vous disiez, nous sommes contre les Républicains, le fait qu'on touche à l'épargne, ça j'ai bien compris, mais que vous avez voté des textes qui sont plutôt antisociaux, la question des réformes des retraites. Donc c'est vrai que la logique, elle est respectée là-dessus. C'est-à-dire que vous êtes pour prioriser un peu l'épargne et l'enrichissement, entre guillemets. Et puis, le question sociale pose moins de problèmes. Moi, je pense que ce gouvernement a un problème budgétaire qui n'est pas seulement lié au fait qu'il aille puiser dans la thésaurisation et les trésors de guerre. La problématique qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, il y a 50 milliards de dettes liées au remboursement d'un intérêt. C'est quand même un truc incroyable. C'est-à-dire que c'est le troisième budget d'État. On est obligé d'emprunter sur les marchés financiers internationaux pour rembourser d'intérêt. C'est vraiment, là, c'est de la folie. Moi, je pense que s'il y avait vraiment une action, une coercitive de la part non seulement de la France, mais de l'Europe, il faut geler la dette pour commencer à attaquer le cœur de la bête, à savoir le capital à rembourser. Parce que tant qu'on continuera à rembourser d'intérêt sans rembourser le capital, le pays va s'enfoncer. Ensuite, sur un plan budgétaire, c'est vrai, il y a une défiance des entreprises, c'est lié au Covid. On a beaucoup prêté. Moi, j'en connais des entreprises qui ont été récupérer leur PGE, le prêt garanti par l'État, et qui n'arrivent plus à faire face à la fois à leur dette
Des faillites, il y en a eu. Hein.
Oui, c'est parce qu'ils sont endettés par le PGE.
Ah, ils sont endettés.
Ils ont été trop loin.
Oui, trop.
Et en même
PGE,
temps,
bien sûr,
leur
ça
activité
les
a baissé. Donc le croisement revenu, remboursement de dette, ça fait dépôt de bilan. Donc aujourd'hui, la question qui doit être posée, c'est quoi? C'est soit reporter le règlement du PGE, c'est une possibilité, soit redynamiser le tissu industriel et l'entrepreneuriat en France, mais il faut attirer les capitaux étrangers, donc faire en sorte qu'il y ait les zones franches de façon plus élargie, faire en sorte qu'on commence à libéraliser un peu l'économie pour relancer le marché. Ça ne veut pas dire ultra-libéral, hein, ça veut dire libéraliser, libérer les forces.
Et quelle est la position justement des Républicains sur la question du gel des intérêts de la dette?
Alors, d'abord, c'est très simple. Si vous faites le gel, je ne sais pas si je peux rentrer dans ce débat technique, mais si vous faites le gel des intérêts de la dette ou le gel de la dette globalement, c'est-à-dire que vous envoyez un message au marché, les gens qui nous prêtent de l'argent, vous leur dites, écoutez, maintenant, quand vous nous prêtez, on ne vous rembourse pas.
Donc, on rembourse les capitaux.
Donc immédiatement, pour les prochains emprunts, parce qu'il faut bien payer les fonctionnaires, il faut bien payer les écoles, il faut bien payer les flics, etc.
Il est tombé là-dedans, là.
Donc la première chose qu'ils vont vous dire, la prochaine fois, on ne vous prêtera plus.
Eh bien, moi,
parce
je veux
le jour,
ça,
le, jour, le jour, le jour où on vous prête de l'argent et que vous ne remboursez pas, enfin, je veux dire, dans n'importe quel ménage, ça marche comme ça. Deuxièmement, ça va faire augmenter notre taux d'intérêt, puisqu'on sait que quand on prête à la Maison France,
dégradation.
La Maison France, c'est plus risqué. Donc, Maison France, je veux bien te prêter. Par contre, la prochaine fois, je te paye je veux que tu me rembourses avec 6-7% de taux d'intérêt. Donc, ça va coûter encore plus cher. En revanche, là, vous avez raison, c'est qu'on ne s'attaque pas à la réforme structurelle de l'État, qui fait qu'aujourd'hui, je prends notamment l'exemple de l'éducation, on dépense énormément. Donc, on dépense énormément pour des résultats qui sont mauvais. On dépense plus parce qu'en fait, structurellement, on a des problèmes de management dans notre pays.
Ça va être animé, je vous dis, au Parlement, vous allez voir. Ça va être animé.
C'est-à-dire qu'en gros, que ce soit dans l'hôpital ou que ce soit dans l'éducation, on a mis beaucoup d'argent dans les fonctions administratives et on a de moins en moins de professeurs et de moins en moins d'infirmiers sur le terrain.
J'ai envie de dire que c'est marrant parce que vous êtes tombé dans le piège, mais c'est un piège grossier parce qu'il y a une posture de droite qui est logique. J'ai pas dit qu'il fallait geler le remboursement, j'ai dit qu'il fallait geler le remboursement de l'intérêt pour attaquer le capital. Ensuite, il faut savoir, c'est là où c'est intéressant. Sur le budget de l'État, si on retire le remboursement de ces 50 milliards de capital, les comptes non seulement sont équilibrés mais excédentaires. Ce qui fait qu'on peut désendetter la France.
Mais comment vous faites? Vous faites comment? Vous dites on paye plus.
Non, on ne paye plus l'intérêt.
Et à qui vous dites ça?
On dit aux bailleurs de fonds internationaux.
Ah, donc vous leur dites je vois vos intérêts.
Le risque de.
On a signé des contrats, monsieur Lassard.
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est négocier des contrats. On a bien effacé la dette du Brésil ou de l'Argentine.
Ah, d'accord. Donc on est au niveau de pays en faillite comme le Brésil.
Oui, quand un pays a plus de 50%
de l'intérêt. On n'est pas à ce niveau-là quand même.
La France n'est pas sur un plan structurel. Si la France était une entreprise.
Ah, c'est ça, je m'inquiète alors.
Si la France était une entreprise, elle a plus 50% d'endettement, elle fait faillite. Ça, c'est une réalité. Maintenant, juste pour finir un propos, très important.
Il y a le problème qui arrive.
Oui, mais je finis, c'est important. Si on rembourse le capital et qu'on désendette le pays mécaniquement parce que c'est l'intérêt qui coûte cher, on a plus besoin d'emprunter sur les marchés. Donc la dégradation de la France n'a aucune importance.
Richie, oui,
il y a quand même eu une production de richesse dans ce pays qui aujourd'hui est en constante augmentation sur le plan des comptes entreprises avec un record de recettes pour le CAC 40 qui est juste impressionnant à plus de 150 milliards de bénéfices nets cumulés. Et il faut prendre ça en considération quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent.
Le quoi de neuf. C'est parti, le quoi de neuf. Le quoi de neuf, le jingle, s'il est là, s'il n'est pas là, et bien écoutez, on va lancer tout de suite Pascal Boniface. Le quoi de neuf, c'est parti.
Les informés. Le quoi de neuf.
Et le quoi de neuf, vous le savez, c'est comme chaque jeudi, avec le directeur fondateur de l'Institut Leris, mais également aussi géopolitologue. Pascal Boniface, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
Eh bien, je vous lance, vous savez quoi? Avec votre billet d'humeur, vous avez décidé de nous parler et de consacrer ce billet d'humeur, le vôtre, autour de la question des humanitaires. Allons-y.
Oui, il y a 7 membres de délégations humanitaires qui ont été tués par l'armée israélienne de World Central Market, qui ont été tués donc par un tir de drone de l'armée israélienne. Le Benjamin Netanyahou s'est excusé en disant que c'était involontaire. On n'est pas franchement forcé de le croire, dans la mesure où les délégations humanitaires sont toujours en constante liaison avec l'armée israélienne pour pouvoir bouger, et que si l'armée israélienne est capable de frapper avec beaucoup de précision une ambassade iranienne à Damas, on peut penser qu'ils avaient tout à fait localisé cela. Et cette tuerie a suscité beaucoup d'émotions, y compris dans le monde occidental. Le président Biden a dit qu'il avait le cœur brisé, et j'aurais à ce stade dire deux choses. Le premier, c'est qu'en fait, ces 7 morts qu'il faut bien sûr regretter, ont suscité beaucoup plus d'émotions dans le monde occidental que les 33 000 morts qui ont déjà été tués par l'armée israélienne. Et donc, il y a encore dans les notions un deux poids, deux mesures. Dans la mesure où il s'agit d'occidentaux, il y a un Australien, un Canadien, un Américain, un Anglais et un Polonais. Et donc, ça a suscité beaucoup plus d'émotions. Deuxièmement, Biden a peut-être le cœur brisé, mais il continue d'envoyer des armes à Israël. Et donc, il ne peut pas à la fois dire qu'il regrette ce qui se passe, qu'il a le cœur brisé, tout en, de l'autre main, signer les décrets qui permettent d'envoyer les mêmes armes à Israël qui bombardent cela. Et puis, bien sûr, du coup, on voit bien que par rapport à la stratégie de famine sur la bande de Gaza, eh bien, cette tuerie peut servir parce que la plupart des organisations humanitaires, du coup, ont mis fin ou ont mis en suspension leur action. Et donc, le but de ceci, c'est que ça va encore accentuer la propagation de la famine de ces 2 millions de Gazaouis qui n'ont plus l'accès au ravitaillement et qui ont de sérieux problèmes. L'ONU, les ONG alarment depuis très longtemps sur le risque de famine qui gagne du terrain. Quelques photos extrêmement choquants qui ont déjà circulé sur les effets concrets que le manque d'approvisionnement peut avoir comme conséquence sur la vie simplement des Palestiniens. Donc en fait, on s'enfonce toujours un peu plus dans l'horreur et on peut juste remarquer l'impunité d'Israël. Il y a quand même maintenant 10 jours que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution normalement obligatoire demandant un cessez-le-feu immédiat. Et il n'y a toujours pas de cessez-le-feu. Les États-Unis n'ont pas mis leur veto, ils se sont abstenus, mais normalement cette résolution est obligatoire et bien sûr Israël ne l'applique pas et bien sûr le reste du monde ne dit pas grand chose, proteste purement verbalement de façon complètement platonique sans qu'il y ait des conséquences réelles. Et donc Biden a le cœur brisé, mais il continue à envoyer des armes.
Merci pour ce billet d'humeur, mon cher Pascal Boniface. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à jeudi prochain, sans faute.
Avec grand plaisir.
Géopolitologue, mais également aussi le directeur fondateur de l'Institut Léris. Merci, mon cher Pascal Boniface. Je voudrais qu'on traite, vous savez quoi, de ce sujet avant de rendre l'antenne. C'est le député LFI qui a expliqué il y a quelques jours, vous savez quoi, son refus de participer au discours alarmiste sur la laïcité. Il tape notamment un certain nombre de personnalités politiques. Il dit que la laïcité est menacée par toutes les religions. On l'aura compris, évidemment. Il cible notamment. Alors, qui veut prendre la parole? Richie, allez-y.
Oui, moi je pense qu'effectivement, il n'y a pas de problème majeur.
On fait un tour de table.
Autour de
j'ai
la question de. Je pense qu'il n'y a pas de problème majeur autour de la question de la laïcité, mais qu'il y a effectivement des discours alarmistes en ce sens. Mais si tant est qu'il y ait des problématiques, il faut les aborder vis-à-vis de l'ensemble des religions, et notamment vis-à-vis des 3 monothéismes qui dominent en France, et non uniquement du point de vue des musulmans, avec des discours plus que stigmatisants, simplement.
Gamal Abina.
Bon, je pense que la laïcité, c'est un bon cachet pour cacher la réalité. Les cibles, elles sont toujours les mêmes, c'est les arabo-musulmans. On a confondu récemment le cultuel et le culturel, ce qui était ridicule. La baïa, qui est une robe classique qu'on trouve partout, qui est une robe ample pour les femmes qui n'ont pas envie de se faire embêter, par exemple, c'est devenu une robe religieuse. Donc quand on maîtrise si peu les sujets, puis quand on est offensif à ce point à pourrir la vie des gens, alors qu'il y a des questions plus graves dans la société, je pense que c'est une façon habile de ne pas revendiquer son racisme anti-arabe. Je parle vraiment de racisme. Ils ont une obsession aujourd'hui. Au lieu de calmer les tensions, on parle que de choses périphériques dont tout le monde se fout. Qu'une femme s'habille en abaya ou
quoi. Vous êtes convaincu de ça?
C'est pas que je suis convaincu, c'est évident. On l'a fait il y a 40 ans.
Dans les années 40,
on faisait la même chose avec les juifs. Il fallait pas faire l'abattage rituel, il fallait pas qu'il soit trop visible. C'est un grand classique, malheureusement. L'Occident a du mal, et surtout la France a du mal avec ce qu'on appelle les minorités.
Jonas Haddad.
La laïcité, telle qu'elle a été conçue, ça n'a jamais été conçue comme étant un glaive contre les religions. Ça a été conçu comme étant un bouclier pour faire en sorte qu'ils puissent avoir justement le fameux vivre ensemble dont on parle tout le temps. Deuxièmement, ce que dit Bompard est un peu problématique, mais d'un autre côté, c'est très rare que je donne raison à Bompard. C'est pour le coup. Non, je donne pas raison complètement, mais en fait, il faut dire une chose. Il faut être cohérent. Monsieur Bompard, il appartient à un parti politique qui veut une immigration incontrôlée. Il veut qu'on fasse rentrer 500 000, 1 million tous les ans, etc. Bon. Aujourd'hui, on fait rentrer 500 000 personnes dans notre pays. Si vous expliquez pas aux gens qui viennent dans notre pays, qui ne sont pas français, on est d'accord, ils sont pas français, ils sont afghans, pakistanais, ivoiriens, mexicains, et mexicains, etc. Par exemple, il y a des évangélistes dans l'Amérique du Sud. Que vous arrivez dans un pays, que dans ce pays, il y a un principe qui s'appelle la laïcité, que c'est un héritage de notre histoire et qu'on en est fier parce qu'on considère que c'est une des parties structurantes de ce qui fait notre nation. Si vous n'expliquez pas à ces gens, notamment quand ils mettent leurs enfants à l'école, que la laïcité, ça se respecte, vous faites comment? Vous ne faites pas des Français. Et l'objectif, quand il y a des gens qui viennent, notamment lorsqu'il y a beaucoup d'immigration, c'est d'expliquer ce qu'il y a. Donc l'idée n'est de mettre en cause personne. L'idée, c'est de rappeler les principes qui font notre nation.
Merci Jonas Adam, merci Richie Thibault, merci Gamal Abina, merci à Tarek à la réalisation. Je speed. À demain avec autant de plaisir, parce que sinon je vais me faire évidemment couper en direct. À demain avec autant de plaisir. On lâche rien surtout. Ciao.
Yep.
Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM, la rediff. Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est en Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. 21h pétante. On est ensemble en ce jeudi 4 avril 2024. Et au programme de cette émission, on va parler de quoi, chers auditrices et auditeurs? On va revenir, c'est promis, sur le PSG. Oui, tranquillement, avant le FC Barcelone. On rappelle un quart de finale aller de l'édition 2023-2024 de cette Champions League. Avant cela, il y aura Clermont Foot ce week-end. Mais en tout cas, on gardera un œil de près sur les Parisiens et les hommes aussi de Luis Enrique. Arsenal qui reprend la main en première ligue. Ça joue encore une fois ce soir avec Jürgen Klopp et ses hommes, avec les Reds de Liverpool. Et on parlera aussi des résultats de la NBA, le championnat nord-américain. Ce soir, on va vous donner le débat du jour. Justement, Arteta, le facteur chance pour certains. Eh ben oui, c'est la question que l'on s'est posée avec pas mal d'auditeurs et d'auditrices sur les réseaux sociaux. On vous la pose aussi ce soir. D'ailleurs, on accueillera les Footsiders encore une fois avec Samy qui sera avec nous pour parler de Scouting Day. Voilà, c'est la 5e édition à Paris le 19 avril. Voilà, ce 19 avril, on va en parler, on va en revenir justement. C'est quoi le Scouting Day justement? Eh ben, on va tout donner ces infos avec Samy qui nous accompagnera durant toute cette émission. Allez, sans plus tarder, on va présenter la fine équipe qui m'accompagne ce soir.
Time Sport. Et pour parler,
on sera en compagnie de Adnan qui va nous rejoindre, sans oublier notre invité Samy de Footsider, je le rappelle. Un petit clin d'œil aussi à Tristan Molinari. Et ce soir, on est avec qui? On est avec Benji. Bonsoir Benji, comment ça va?
Mais ça va très bien, bonjour à tous, bonjour Bilal, en pleine forme pour parler football, football anglais, parler du Paris Saint-Germain, parler de NBA. Un programme bien riche, on va se régaler avec une équipe de feu. Donc,
ouais.
Très heureux d'être là, très heureux. En plus, la Olympique Lyonnais est en finale de la Coupe de France,
ben
on
voilà.
s'est arrêté. Il y avait 0-0 encore.
Eh oui, c'est ça.
Derrière, ça a été l'explosion.
Paris Saint-Germain
en finale.
Qui rejoint l'Olympique Lyonnais. Et eh oui, avec cette saison assez folle d'un
mouvementée.
Ouais, mouvementée, c'est ça. Mourad, bonsoir Mourad, comment ça va?
Bonsoir Bilal, j'espère que tu vas bien.
Ouais,
merci,
moi, ça
encore
va.
Pour l'invitation.
Bah,
j'ai l'impression que tu m'invites
Mourad.
Que quand il y a un contexte Première Ligue. Donc je commence à.
Eh ben non, Mourad, tu es invité tous les soirs si tu veux. Tu es invité tous les soirs si tu veux, Mourad, sur l'antenne de Beurre FM. Vraiment, tu es le bienvenu, tout comme Mathieu. Bonsoir.
Merci
Mathieu,
beaucoup.
Comment ça va?
Bonsoir Bilal, bonsoir à tous, ça va très bien.
Ouais, tranquillement.
Je vais reprendre un peu les mots de Benji. On a
un super programme,
on a un plateau Ligue des Champions plus. J'ai la chance d'être autour de consultants et de chroniqueurs exceptionnels, donc je suis ravi.
Super.
Et il y a beaucoup de choses à dire.
Ouais.
Et on va encore beaucoup s'amuser ce soir.
Et ben voilà, Adnan qui nous a rejoint. Bonsoir Adnan, comment ça va?
Bonsoir à tous.
Ouais, tu vas bien Adnan?
Oui, j'arrive dans le temps additionnel, mais ça va.
Bon, ça va, tu es prêt là?
C'est
oui,
bon,
on est là, tranquillement. C'est super, Nan. 1-0, c'est le Paris Saint-Germain face au Stade Rennais, justement, Mourad, hier soir. Eh ben oui, il y a eu des tirs. Il y en a eu 10, il y en a eu 9 pour le Stade Rennais. Paris est passé in extremis selon certains. Et c'était un peu, ouais, un match, ouais, comme s'ils sont plus.
Oui, ben c'est. Je pense que le PSG a fait le boulot.
Sans plus, 1-0.
Ben c'est ce qu'il fallait faire. Donc il faut revenir à l'ADN du club, qui est la Coupe de France. Je crois que c'est le club qui a le plus de finales en Coupe de France après l'Olympique de Marseille. Donc voilà, ils étaient dans l'offensive au début et ensuite dans la gestion. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut tirer son chapeau non pas qu'à Kylian Mbappé, mais plutôt au groupe et surtout à Lucien Riquet. Voilà, qui fait les bons choix au bon moment, qui tranche, qui prend des décisions. Et après. Il y a aussi les équipes en face. Et quand on voit le Stade Rennais, pour moi, ils ne sont pas comportés comme une équipe qui voulait aller en finale.
Mmh.
Donc voilà, sachant qu'ils ont les arguments offensifs, ils ont un coach avec une maturité tactique hyper avancée.
Ouais.
Et je pense qu'ils n'ont pas fait le match qu'il fallait. Donc, à part un grand Mandanda, mais on a eu un très petit Omari hier.
Oui.
Qui était en grosse difficulté face à Kylian Mbappé. Et Mbappé qui a tiré son épingle du jeu, même s'il a raté un pénalty, mais il a fait le boulot. Où il a montré.
Il n'a pas raté un pénalty, c'était Mandanda qui l'a arrêté.
Oui,
parce que cet arrêt, il est exceptionnel quand même.
Oui, après.
Et en tant que supporter marseillais, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Mandanda arrêter un pénalty.
Justement, quand on connaît Steve Mandanda, on sait justement son taux de conversion en termes d'arrêt sur pénalty. Donc on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Enfin, même si on sait que c'est un très bon gardien, mais sur pénalty, on ne s'attendait pas à ça. Donc voilà, donc le PSG est revenu à son ADN, est revenu à ses fondamentaux. fondamentaux et va retrouver l'Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de France. Voilà, pour faire la petite passe D devant le but à
Benzema. On les attend. Oui, on les attend. Je suis un peu dans la caricature parce que forcément c'est un match où on partira pas favori, où ça va être très compliqué, mais pour revenir déjà dans un premier temps sur le match qu'on a pu voir entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Mourad. J'ai été déçu de la prestation rennaise vraiment dans sa globalité. On sait que le coach a la possibilité normalement de pouvoir poser problème avec une science tactique. Cependant, j'ai l'impression que le Stade Rennais est moins bien armé pour vous pouvoir contrer le Paris Saint-Germain qu'elle était à d'autres années, mais à contrario, selon moi, ils ont un meilleur effectif qu'ils n'avaient certaines années.
C'est ça, quand
je
regarde les forces en présence.
Alors, je vais m'expliquer pourquoi. Et je pense que du coup le Stade Rennais aura de plus en plus de difficultés à jouer le Paris Saint-Germain s'il reste sur des joueurs de ce style-là. Et ça se met en avant selon les stats. T'as expliqué tout à l'heure qu'il y avait 10 tirs à 9, mais d'un côté il y a que 2 tirs cadrés pour le Stade Rennais. Et donc ça montre une surdomination quand même du Paris Saint-Germain. Enfin,
ouais.
Pas dans. On s'est pas dit que le Paris Saint-Germain allait gagner 7 ou 8-0.
Bien sûr.
Une surdomination dans le côté serein. Pourquoi ? Ouais. Parce que le Stade Rennais a décidé de faire comme il faisait avant, c'est-à-dire il y a un an, deux ans, lorsqu'ils avaient des joueurs différents au poste de l'attaque, c'est-à-dire avoir un bloc un peu plus bas, laisser la possession au Paris Saint-Germain et essayer de gérer avec une contre-attaque les espaces et les erreurs de placement du Paris Saint-Germain.
Cependant,
t'as plus les joueurs.
Je suis là aussi.
C'est là où t'as plus les joueurs.
C'est pas une question d'effectif, c'est aussi une question d'intention. On a vu le Stade Rennais justement rester stoïque, laisser justement le PSG faire et ensuite un Rennes à réaction une fois qu'ils ont encaissé le but, essayer. Mais moi, pour ma part, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas pris assez de risques justement.
Non, je suis totalement d'accord
à ça.
Et puis en plus, pour aller au-delà de ça, je vais aller jusqu'au bout de mon argumentaire. Pourquoi pour moi ça a posé problème si tu veux jouer le Paris Saint-Germain avec un effectif comme ça et avec la même mentalité? Pour moi, c'est soit tu changes de mentalité, soit tu changes des joueurs devant pour pouvoir poser au problème au Paris Saint-Germain, parce que tu manques de verticalité et de vitesse pour justement pouvoir prendre les brèches des pertes de balles du Paris Saint-Germain et pouvoir amener une contre-attaque plus rapidement. Martin Terrier pouvait être ce mec là avant, mais malheureusement avec sa blessure, tu sens que maintenant il attend plus la balle dans les pieds qu'en profondeur et il est plus au niveau dans l'horizontalité que dans la verticalité. C'était un peu ce joueur là qui pouvait faire la différence. Avant t'avais un Souleymana qui avait ce rôle là qui pouvait prendre en profondeur, et c'est à ce moment là où le Paris Saint-Germain a eu le plus de difficultés contre Rennes.
Il jouait contre son ancienne équipe.
Bien sûr,
il a rien trouvé.
Pas très vertical non plus, tu vois.
Donc
c'est pour ça que pour moi j'ai l'impression que le Stade Rennais n'était pas très armé pour pouvoir jouer ce Paris Saint-Germain là avec cette mentalité là. Et même avec comme Guiri, tu vois, c'est plus un mec qui la demande dans les pieds, qui va faire la différence avec un geste de génie dont il a la capacité de le faire. Donc c'est pour ça qu'on soit déçu de la prestation rennaise, mais pas surpris.
Ouais. Adnan, oui, Mathieu,
Pas surpris parce que je rejoins un peu tout le monde autour de la table qui disait les années où Rennes a battu Paris, c'était peut-être un effectif moins bon, mais il y avait une meilleure mentalité et il y avait plus d'envie. Il y avait peut-être même aussi un peu plus de préparation dans ces matchs-là. Je ne dis pas que le coach Rennais n'a pas préparé son match, mais j'ai trouvé un manque d'envie. C'est le mot. Et si Steve Mandanda fait pas un grand match, avant le but d'Mbappé, il y en a 3 voire 4. Parce que en fait, ils sont sur le fil toute la première mi-temps. Avant le but d'Mbappé, ils sont sur le fil. Et c'est Mandanda qui les laisse, entre guillemets, dans le match. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un manque d'envie, un manque de...
Il y a des intentions,
tout simplement. Les Rennais sont armés avec cet effectif-là.
Ouais, mais moi, ce qui me pose problème, c'est justement, avant le match de Ligue des Champions contre le Barça, est-ce que ce type de match va leur apporter quelque chose? Est-ce que justement,
ils ont quand même bien géré leur match,
ils n'ont pas été dans la difficulté face à un adversaire comme le Barça. C'est pas ce type de confrontation qu'ils vont retrouver, c'est pas ce type de duel. Et à un moment, c'est ça qui pose problème. À chaque fois, le PSG, justement, tombe dans le piège de Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que dans le championnat de France, il n'y a rien en face.
Mathieu.
Une équipe comme Clermont ce week-end, qui joue son maintien aussi en Ligue 1.
Tu sais pas ce que ça va faire.
Attention. Va pouvoir embêter le PSG parce que ils vont rentrer.
Ne pas négliger.
Si c'est le Paris Saint-Germain, Clermont joue son maintien. Et un maintien en Ligue 1 pour un club comme Clermont, c'est ce que ça représente.
Ouais.
Donc, à voir s'il y a une autre mentalité du côté des Clermontois et à voir ce que va répondre le PSG. On rappelle qu'au match aller, le PSG avait fait 0-0 contre Clermont et que ça avait pas été facile pour les Parisiens.
Non, bien sûr.
Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce week-end pour
alors,
PSG.
Alors Mourad, avant de retrouver notre invité.
Moi, je pense que c'est facile de faire ces analyses a posteriori. Le PSG ne peut pas déterminer dans quelle optique sera son adversaire. Là, quand on regarde le 11 de départ,
c'est
on se dit.
Le Barça, Mourad.
On se dit non, mais
attention, je veux dire, sur l'ADN du Barça, quand même, c'est l'équipe qui va se découvrir.
Alors en amont du match, pour préparer un match de Ligue des Champions face au Barça, ce type de choc, je pense qu'affronter le Stade Rennais, c'est peut-être le match idéal. Il y a combien d'équipes du niveau du Stade Rennais sur le papier quand on regarde ce qu'ils ont. Quand on regarde ce qu'ils ont, il y a du Kalim Wendo, il y a du Amin Gouiri, il y a du Ludovic Blas.
Sur ce qu'ils ont fait hier soir, actuellement, ils ont fait hier soir.
Attends, il va terminer. On revient à toi.
Il y a du Ludovic Blas quand même qui est plus à présenter, qui à part sa teinture blonde hier, qui nous rappelait Neymar, il a strictement rien montré. Donc après, c'est aussi le Stade Rennais qui n'a pas joué hier. On attendait à ce qu'ils enflamment le match. En fait, ils ont joué comme un match lambda de Ligue 1, comme s'ils n'avaient rien à jouer. Même pas comme s'ils étaient dans le ventre mou, alors que c'est un demi-finale de Coupe de France, alors qu'on connaît le Stade Rennais, ils traînent la réputation d'être un club qui, saison après saison, ne joue aucun trophée. Donc ils n'ont pas enflammé le match, et c'était à eux justement de faire le boulot. Et le Paris Saint-Germain, lui, l'a fait.
Allez, Samir de Footsider, avant la première pause, on l'écoute concernant ce Paris Saint-Germain. Samir, il y a Lulu qui nous écoute aussi avec Gaëtan ce soir. Écoute.
Et Charlie, il nous écoute
alors,
aussi ou pas
Charlie, c'est Charlie.
Vraiment lui.
Ah ben bien sûr, c'est vraiment
le
lui.
Salut.
On le ramènera, t'inquiète pas.
Dans les années 90.
Il travaille pour le ramener. Il nous fait toujours rêver, justement. C'est une légende de la télé et des médias. Non, faut le dire, faut le rappeler. Samy, Footsider.
Bonsoir, Billy.
Alors, bonsoir, comment ça va?
Ouais, très bien, nickel.
Ouais,
très bien.
Confiant pour le Paris Saint-Germain, Samy?
Confiant, oui, mais on garde quand même des craintes.
Ouais.
C'est un scénario piège. Ça peut
il y a
être...
toujours des craintes.
Ouais,
mais c'est vrai, il y a toujours. Paris est serein, Paris une grande équipe, mais c'est vrai, on a toujours cette crainte, cette peur. On a l'impression.
Mais je suis confiant parce que le groupe, il est mieux géré, le groupe, il est plus structuré, il y a de la concurrence. Donc je pense que c'est l'année ou jamais pour le PSG de toute façon. Vraiment, avec l'effectif qu'ils ont, la composition probable, je pense que le PSG va faire mal au Barça. Après, voilà, on attendra quand même le match retour là-bas qui peut être un match piège.
Ouais, match piège, justement. Le match retour. Mourad, ça te fait sourire. Nous pas.
Ouais, j'aimerais bien être aussi optimiste que Samy dans la vie.
Moi, je ne sais même pas comment vous faites pour être optimiste comme
optimiste.
Ça. Après, toutes les années passées qu'on a vues, etc. Adnan. Prenons match après match
on
verra justement du résultat.
Luis Enrique, l'entraîneur de la Remontada.
Oui, on est
mauvais
d'accord.
Souvenir pour les Parisiens et les Parisiennes.
C'est deux équipes qui sont capables justement de battre n'importe qui, mais aussi de perdre contre n'importe qui. Donc à un moment. Voilà, pour moi, c'est vraiment du 50-50.
Après, on essaie aussi d'imaginer des scénarios possibles.
Et tu l'as fait, toi, les scénarios des années précédentes.
Mais bien sûr,
on l'a fait.
C'est aussi le but du jeu, C'est aussi le but de prendre des risques. Et là où je peux rejoindre Samy, c'est que selon moi, ça peut être quand tu disais justement que ça pouvait être un peu l'année ou jamais, que c'était un peu le moment potentiellement. Je suis assez d'accord sur plusieurs points. Premièrement, parce que, Paris tombe du bon côté de l'arbre. Déjà, ça c'est une certitude pour au moins une accession finale. Un arbre qui est plus simple. Je dis pas que c'est un arbre facile. Évidemment, il y a pas d'arbre. Il y a pas d'arbre facile.
Mais on sait qu'en Ligue des Champions,
évidemment,
c'est un critère qui est très très important.
Non, mais un arbre, exactement. C'est plus de bruit qu'une forêt qui.
Non, je rigole. Mais on est obligé de le dire.
J'ai bien aimé ce. J'ai mis du temps à capter en fait que l'arbre c'était justement le tirage au sort de la Ligue des Champions.
Ne t'arrête pas.
Et donc forcément. On se rattache à la branche de l'arbre qu'on peut. Je vais aller dans ton sens, je vais continuer ta métaphore. Mais
attention, faut pas scier la branche sur laquelle on est assis.
Effectivement. On est d'accord là-dessus. Donc déjà, c'est un point positif pour le Paris Saint-Germain, qui est peut-être sur le papier avec le FC Barcelone l'équipe qu'on attendait le plus haut de ce niveau-là, du côté de l'arbre. Et deuxièmement, quand tu regardes de l'autre côté également, selon les équipes qui vont passer, tu peux te retrouver face à un Bayern Munich qui est extrêmement malade. Il faut le dire aussi. Donc c'est peut-être aussi l'année ou jamais où jouer le Bayern Munich ne fait pas aussi peur que les années précédentes.
Oui, mais là,
et d'un autre côté, tu peux te retrouver face à Manchester City et Arsenal, qui vont être dans la course au titre, dans une course effrénée au titre, qui vont jouer beaucoup de matchs avec une équipe titulaire qui va être très souvent mise en place, avec des joueurs qui vont être aussi beaucoup surmenés, qui sont peut-être un petit peu moins frais que les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc évidemment, c'est des peut-être, c'est des on-dit. On se rattache à ce qu'on peut. Je dis pas que le PSG est favori, évidemment que non. Quand tu vois les équipes qu'il y a de l'autre côté, mais moi, je suis d'accord dans le sens où pour moi,
alors,
c'est une année où potentiellement tu peux faire quelque chose.
Ouais, voilà, vas-y, Mourad, vas-y.
Moi,
moi ça me fait rire ceux qui disent le PSG est toujours en lice pour un potentiel triplé. Ah, bien sûr qu'ils ont plié le championnat, bien sûr qu'ils sont très proches de soulever la Coupe de France, mais je veux dire, en début de saison, en août 2023, je sais pas moi, l'Aris Limassol ou le Dynamo Zagreb aussi en qualif pour les tours de barrage, ils sont aussi en lice pour un triplé.
C'est vrai, c'est vrai.
Leur championnat local, etc. Donc en fait, on est en mode jusqu'ici tout va bien, d'accord. Le plus difficile, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et l'atterrissage, c'est quoi? C'est justement un match à élimination directe. Et le match à élimination directe, c'est contre le Barça. Et là, qui peut dire que le Paris Saint-Germain est favori face au FC Barcelone?
Personne.
Donc voilà, c'est là mon analyse. C'est trop prématuré. Ouais, faut prendre
les matchs après match. Nos plateaux ici sont bons. Non, mais c'est vrai.
Surtout, on a encore un Dortmund, on a encore un Atlético Madrid qui a éliminé l'Inter, qui
est
pour moi un des favoris.
Paris Saint-Germain, quand même.
Un des favoris de cette Ligue des Champions.
C'est celui qui va gagner la Ligue des Champions, les garçons.
Le chemin est encore long.
Moi, je pense qu'on est au début du process, Michel Enrique. Certes, il y a Kylian Mbappé qui est là, qui cache la forêt pour reprendre le champ lexical. Mais voilà, il y a beaucoup. Il y a beaucoup d'inconnus en fait. On n'a pas encore vu certains joueurs au très haut niveau. Quand Ding Li, je ne sais pas ce qu'il vaut sur des gros matchs comme ça, sur des chocs de ce type. Je ne sais pas ce que vaut un Vitinha. Je ne sais pas ce que vaut un Barcola par exemple. Je ne sais pas ce que vaut un Dembélé en pleine possession de ses moyens. Est-ce que justement le fait de manquer d'efficacité à ce niveau-là, est-ce que ça ne va pas justement jouer des tours au PSG? Parce que Dembélé, c'est peut-être le meilleur joueur du monde dans la créativité, mais à un moment donné, en termes de taux de conversion, en termes de statistiques, c'est là qu'on l'attend. Est-ce qu'il va pouvoir faire passer un cap au Paris Saint-Germain? Et c'est là toutes les interrogations qu'on a autour du Paris Saint-Germain. En termes de contenu, en termes d'attention, oui. Ouais. Après le très haut niveau, ça joue à des détails et c'est l'efficacité.
On va voir cela. Solal, une réaction, si on a le temps.
Avec Solal, concernant le Paris Saint-Germain. On lui donnerait le ballon d'or.
Ah ben voilà.
C'est juste que le Paris fait comme ça.
Alors, on a le temps pour que ça réagisse.
C'est quelque chose dans ce goût-là.
Vas-y, rapidement.
Si les buts faisaient 40 mètres aussi.
Le Paris Saint-Germain. Vas-y.
Oui, bien sûr, c'est frustrant, mais une victoire est une victoire. 25 d'affilée là pour le PSG. C'est vrai qu'à titre comparatif, le Real, lorsqu'ils ont l'occasion de marquer plus de buts que par exemple un 1-0 et finir sur un score qui donne pas très envie, franchement ils gagnent le match. Et à titre comparatif, moi ça me fait penser aussi un peu à ça, en tout cas c'est la réflexion que j'ai eue en NBA. À partir d'un certain moment dans le match, si l'équipe a un point un peu plus élevé que l'autre, les deux camps arrêtent de jouer par respect. En fait, je pense pas que le PSG va jusqu'à là, mais il faut qu'on soit aussi satisfait de ces victoires là
on va voir,
même si c'est pas des scores,
c'est compliqué, 1-0, tu parles du match de Rennes, c'est ça, en Coupe de France. Je pense que c'est très compliqué de s'arrêter en Coupe de France, sachant qu'il y a plus de prolongation et que si tu prends un but casquette ou un but gag, exactement, t'es tout de suite face à Mandanda qui a pris l'ascendant psychologique sur
Mbappé. Reste avec nous, chers auditeurs et auditrices, on va revenir avec Footsider, excusez-moi, la personne de Samy qui nous accompagne durant toute cette émission. On va revenir de Scouting Day, justement. On en parle tout le temps quand il est là, de Footsider. Il s'est réveillé, lui. Allez, pause et on revient rapidement.
Time Sport. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, la rediff. Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM en ce jeudi soir, jeudi 4 avril, on est ensemble 21h20, chers auditeurs et auditeurs. On rappelle le numéro du standard. Il y a Fala qui nous appelle. Ah, Fala, ben ça c'est promis, il va réagir sur, il va rattraper le temps perdu concernant le Paris Saint-Germain et aussi un certain Arteta. Arteta, on a qui voulait parler? On a une personne qui voulait parler d'Arteta, et oui, c'est Fauzi, voilà, qui est à l'écoute. Arteta, il nous disait justement top coach Arteta, ça fera plaisir à un gars, ce qui n'est autre que Mourad qui nous accompagne ce soir. Allez, il y a une autre personne qui nous accompagne ce soir, c'est l'invité. Allez, justement, on y va.
Time Sport. The special one, the special one, the special one.
Eh oui, excusez-moi, parce que je fais tout à la fois, c'est pour ça. On rentre, voilà, tranquillement dans ce studio. Il est assez grand, le studio. Eh oui, Anan, il est parti servir un bon petit café. Ça fait sourire aussi les Marseillais dans ce studio. On le rappelle, hein, Mathieu, hein, Marseillais issu de la Canebière. Mais nous, on accueille, allez, un autre monsieur, un grand monsieur, qui fait du bon boulot de Footsider et toute son équipe à l'écoute ce soir, notamment avec Margot qui nous suit dans ce studio de Beurre FM. La 5e édition qui aura lieu le 19 avril, de cette année, justement, à Paris. Là aussi, il va avoir des choses, il va beaucoup avoir de joueurs, des clubs, des recruteurs, avec Samy qui nous accompagne ce soir. On l'a présenté en ce début d'émission. Samy, ouais, que va-t-on retrouver
au sein même de cet événement scout, de Scouting Day justement.
Bah tu vas retrouver Bilal. Bon, on s'était vu déjà il y a presque bientôt un an ici.
Ouais, ça passe vite.
Ouais, et là cette année on est sur notre 5e édition. On va réunir les 100 meilleurs joueurs de l'application en France et des pays frontaliers devant, on espère, entre 30 à 50 clubs professionnels et amateurs, dans le but de faciliter leur recrutement et de mettre en avant et de donner une chance à ces jeunes de pouvoir se faire repérer.
Oui, justement. On rappelle aussi des grands joueurs qui vous accompagnent sur ce fameux événement.
Toujours Yassine Brahimi. Qui a porté le maillot à nouveau de l'équipe nationale.
Ouais, international algérien.
Et Ronaldinho, toujours, qui sont avec nous sur le projet.
Rien que ça.
C'est déjà beaucoup,
Il y a beaucoup, justement. Ouais, un petit joueur, justement. Ça fait sourire Mourad. Mourad, t'es proche aussi. Il s'intéresse beaucoup à ça, le scouting. Mourad, on entend le scouting. Qu'est-ce que c'est le scouting? Hein, qui nous vient tout droit peut-être du football anglais? Non?
Ouais, je pense que c'est le scouting a toujours existé, mais je sais pas si Samy
est. Il est à la mode.
Mais moi, j'ai été utilisateur de Footsider. C'est ça. Parce que j'avais un neveu justement qui a eu un parcours atypique et donc il s'est inscrit sur l'application via ma carte bancaire.
Ça, faut préciser.
Et du coup, il a fait des détections. Je pense que la dernière qu'il avait faite, c'était à Tubiz. Donc c'est l'équivalent de Clairefontaine en Belgique, où moi j'ai trouvé l'organisation top, dans des conditions incroyables, avec des vrais recruteurs. On n'est pas sur des applications où on a beaucoup de, entre guillemets, de séances de scouting, on va dire, à la limite, où on a affaire à des charlatans. Là, il y a vraiment des recruteurs où il y a un process, on est informé en cas de succès, informé en cas d'échec. Et j'ai trouvé l'approche très transparente. Elle est supportée par des joueurs qui transpirent le football, comme Yassine Brahimi et Ronaldinho. Donc, moi, je n'ai qu'à les encourager dans ce type de démarche parce que c'est accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, on a l'impression que le football est de plus en plus formé, de plus en plus élitiste. Et lorsqu'on a ces places de marché, parce que pour moi, c'est une place de marché qui rapproche des joueurs et des clubs sur une seule et même application, ça ouvre la porte à d'autres joueurs qui n'ont pas forcément la chance d'être vus, ne serait-ce que d'être vus. Donc je pense que c'est hyper intéressant.
Alors Mathieu,
oui, j'ai une question pour toi Samy. Déjà, tout bêtement, comment toi et tes équipes, comment vous gérez ce genre d'événement?
C'est comme PSG et Barça, on prépare ça. Ça fait déjà 7 mois qu'on est sur l'événement. On prépare tout l'avant, à savoir les terrains, les clubs qui vont venir, tout l'affichage, tout ce qui est hors terrain. Et ensuite, là, on est rentré depuis 2 mois sur la sélection des profils. On a dépassé les 800 postulants sur l'application. Et donc, tous les jours, avec les équipes, on est en train de filtrer profil par profil. On vérifie si tout est bien rempli. On vérifie les feuilles de match. On contacte les clubs pour avoir les meilleurs joueurs lors de l'événement pour pouvoir justement satisfaire tous ces clubs.
Ouais, Anan, non, mais c'est une réaction.
Il y avait un vrai manque. Moi, je me rappelle à l'époque, justement, tous les clubs, tous les joueurs, justement, qui n'avaient pas de club, se retrouvaient. Tu me dis si je me trompe, mais je crois que c'était à la Ligue de football ou Fédération française, dans un groupe très réduit où il y avait des matchs amicaux, justement, entre eux ou soit avec des clubs professionnels. Mais tu n'en avais que très peu qui étaient sauvés, justement, parmi tout ce groupe. Et effectivement, le fait, justement, de pouvoir créer ça, ça permet, justement, de ramener une multitude de joueurs qui sont ou qui étaient en galère et surtout d'ouvrir beaucoup plus de portes qui étaient faites auparavant. Et ça, je trouve ça génial parce que on a vu, nous, on a connu des joueurs justement qui étaient virés de leur équipe, qui n'ont pas continué dans les centres, etc. Et malheureusement, voilà, ils ont galéré pendant un an, des fois, à pas avoir le club et à reprendre derrière.
Moi je rejoins Nan, mais parfois, c'est même encore plus en amont tout ça. Parfois, il y a simplement des joueurs qui n'ont jamais eu l'opportunité d'être vus. Et je pense que c'est là où Footsider intervient, c'est qu'ils vont ratisser hyper large et faire un gros travail à travers des gens compétents, à travers des gens diplômés, à travers des belles infrastructures, à travers un réseau de scouts qui vont venir voir superviser les joueurs, où là ils vont pouvoir les dénicher des pépites qui sont passées entre les mailles du filet, des schémas classiques, pré-formation, centre de formation et même post-formation. Donc c'est vraiment la brique qui manquait pour qu'un joueur puisse être vu. Et il n'y a pas que la visibilité, il y a aussi de l'accompagnement. Et moi, ce que j'ai fait comprendre, c'est qu'il y a aussi un accompagnement aussi.
C'est derrière. C'est le plus important aujourd'hui, c'est pouvoir suivre le joueur. Et on n'est pas que sur des joueurs qui sortent de centre de formation. Pardon. On est là aussi pour donner cette chance à tous ceux qui travaillent au quotidien dans les clubs amateurs, qui font des gros matchs, des grosses saisons, et qui ne se font jamais voir, tout simplement. L'idée, c'est de leur donner cette chance, cette récompense finale, de pouvoir les faire jouer devant autant de clubs sur le terrain. Tout
bien
ça.
Sûr, mais c'est même plus. Ouais, Bilal, c'est même plus. Excuse-moi, Benji. Après, t'inquiète, je te laisse la parole. Et c'est même plus intéressant pour moi d'aller. On a tous joué en mode amateur. Parfois, on est tombé sur des matchs de D1, des matchs de R3. On se dit, que fait ce joueur-là? Il a pas de niveau pour ce championnat-là. Comment se fait-il qu'il est à ce niveau-là alors qu'il aurait pu prétendre un centre de formation ou jouer plus haut? Et je pense que c'est là que c'est intéressant puisqu'il n'est pas broyé, on va dire, par tout ce qui est schéma formation où on écrase la créativité du joueur, on écrase plein de choses. Et là, on a des joueurs, des talents bruts, en fait. Et je pense que ça peut être encore beaucoup plus impactant pour des clubs pro de les recruter, ces joueurs-là. Alors moi, je pense à Ribéry, je pense à.
J'ai quand même une question.
Rapidement,
parce qu'on va revenir à beaucoup de talents, beaucoup justement de l'aspect technique sur le terrain. Mais n'oublions pas que justement, si ces joueurs n'ont pas explosé pour certains, il y a aussi l'aspect psychologique, psychique. Est-ce que vous regardez un petit peu justement l'entourage, de comment il est construit psychologiquement, etc., pour voir si on peut passer ce palier justement au niveau?
C'est la question qu'on pose tous les jours, c'est comment tu peux choisir les profils parmi les 800. Et moi, je rejoins exactement ce que tu viens de dire. Le choix primordial pour moi, c'est en dehors du terrain. C'est de savoir qui est le joueur, comment il est entouré, comment ça s'est passé pour lui ces dernières années. Parce que quand tu vas parler à un joueur, il va te dire en 2020, j'étais dans un club pro et là, j'ai besoin de me relancer. Ouais, mais on est en 2024 aujourd'hui. Donc du coup, c'est vraiment connaître tout le process et tout ce qu'il y a autour du joueur pour valider justement le profil. Et comme tu l'as très bien dit, c'est aussi chercher tous ces joueurs-là qui ne sont pas vus et qui ont faim et qui travaillent tout le temps pour espérer se faire voir. Et en mélangeant tout ça, ça fait de belles choses.
Benji. Ouais, exactement. Je vais pas redire tout ce qu'on dit mes camarades autour du plateau. Je trouve que c'est absolument génial. Je trouve que ça permet de mettre en lumière, du coup, comme on disait, le football amateur et toutes ces personnes qui n'ont soit pas les contacts, soit qui n'ont pas la chance d'être repérées, parce qu'il y a toujours une part de chance. On a tendance à dire que quand t'as le talent, t'es forcément repéré, mais il y a toujours cette petite variable qui peut être un peu compliquée. Donc rien que pour ça, bravo. Et du coup, est-ce que t'as des exemples, voilà, pour aller un peu plus dans le concret, des exemples de joueurs justement que l'application, les cellules de recrutement ont pu permettre de faire passer un step au-dessus, deux steps au-dessus, voire.
Bien sûr. Pour la dernière édition à Paris, c'était 98 joueurs, donc on arrondit à 100.
Bien sûr.
C'était 14 essais et 3 signatures. Sans qu'on lâche, je parle que du pro. Après, si tu vas jusqu'à l'amateur, tu peux additionner plusieurs signatures. Mais la plus belle histoire, c'est celui qui a signé à Bologne. Parce que quand il est sélectionné, il ne joue pas dans son club. Il est sorti des Girondins de Bordeaux. Il est cassé. Il n'accepte pas la passation de club amateur. Donc, le coach ne le fait pas jouer. On m'appelle, on parle de lui. Je discute avec le papa. Il y a un très bon feeling. Je parle avec le joueur. Je lui donne les modalités. Il prend son train. Il dort à la gare. En attendant le rendez-vous, il vient, il joue. 2 jours après, il est parti en essai. Donc c'est vraiment ce genre de profil-là, justement, comme tu disais, des joueurs qui ont un bon environnement et qui ont vraiment, vraiment, vraiment faim.
Ouais.
C'est vraiment ça le critère premier. Des joueurs bons, il y en a, on est en Île-de-France, il n'y a que ça. Mais c'est vraiment additionner ça à l'environnement, au caractère, au comportement qui fait que le joueur va pouvoir y aller.
À l'envie sur le terrain, à l'envie de progresser, à l'envie de mouler le maillot, de montrer que c'est lumière.
Exactement.
J'ai envie de poser une question.
Alors, Anand,
vas-y, tu peux, bien sûr.
Les agents, ils en pensent quoi? Parce qu'aujourd'hui, vous prenez un petit peu leur pain.
Non, justement, quand on ne connaît pas, on pense ça. Mais en fait, moi, je suis l'ami des scouts clubs et je suis l'ami des agents. Pourquoi? Parce que on fait le travail des scouts, à savoir aller leur trouver les meilleurs profils pour les présenter le jour J. Et on met en avant les joueurs qui sont représentés par des agents lors de nos événements. Et c'est eux, les agents qui viennent sur l'application, proposer leur profil qui suit depuis plusieurs mois ou années et qui me facilite le travail à moi et à mon service pour qu'on puisse justement mettre ces joueurs en avant. Donc oui, non, les agents, c'est des amis et les scouts aussi.
Donc excuse-moi de te poser cette question, je suis obligé de te la poser. Il y a quand même une compensation financière derrière.
Pas pour nous, le business model, il est clair, on en avait déjà parlé l'été dernier.
Ouais.
Si tu veux accéder à cet événement, tu as 2 possibilités. Soit tu télécharges l'application et tu passes par le ProStar, l'abonnement qui coûte 8,99€ pour que ton profil soit mis en avant.
D'accord.
Et qui soit recommandé par nos équipes, par des clubs. Donc tu vas avoir comme une certification sur Instagram. Et donc ce profil-là, il va être validé s'il est bon. Et ou soit justement sur les terrains, les scoutismes, les journées de scoutisme que je fais avec nos équipes en Île-de-France, soit à Bordeaux avec Guillaume et Maxime, à Marseille avec Brian. Donc vraiment essayer de chercher les meilleurs profils pour les intégrer aux événements. Mais nous, notre business model, il est acté que sur ça. Si demain tu viens le 19 avril, tu es représenté par un agent.
Oui.
Un club plais. Enfin, tu plais à un club. Derrière, nous, on fait la passation. Tu nous envoies juste la photo comme quoi on est parti là-bas, que ça s'est bien passé. On t'envoie la force. Et si derrière, tu signes, tant mieux. Si tu signes,
tout simplement.
Courage à toi.
Footsider, justement, on peut les retrouver sur les réseaux sociaux. Allez, pour les personnes qui nous écoutent ce soir.
Ouais, tu peux ouais, retrouver Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. C'est Margot, c'est les équipes. Ils sont là tous les jours à travailler sur ça.
Ah bah, ok, on va faire cela. Il reste avec nous, Samy de Footsider, concernant le Scouting Day qui aura lieu le 19 avril prochain à Paris. Allez, on va marquer d'une courte pause. On va revenir avec la NBA, le Paris Saint-Germain, mais aussi Arteta qui nous attend.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, la rediff. Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM. Allez, pour la dernière partie, 21h34, toujours en compagnie d'Annan. Il y a aussi Benji, Mourad pour m'accompagner. Sans oublier Mathieu et notre invité, Footsider, c'est Samy. Voilà, de toute son équipe qui représente le fameux événement qui aura lieu le 19 avril à Paris. Hein, on le rappelle, c'est Scouting Day.
C'est ça.
C'est bien ça. Toutes les infos concernant cet événement sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux, sur l'application directement pour les joueurs, exactement.
Ah ben voilà. Allez, on prend le chemin de l'Angleterre cette fois-ci.
Time Sport. La parole des sociaux.
Assez critique, hein. Eh oui, assez critique. Comme les cahiers du cinéma à qui nous passons le bonsoir, un certain Yvan, justement. C'est Mourad. Eh oui, Mourad, hein, critique. Et c'est la Tamise qui le rend fou. C'est bien ça. Arteta, facteur chance ou pas. Oui, comment va-t-il? L'entraîneur ira très très loin, selon Mathieu. Attention, faut pas négliger les Gunners, ces canonniers de Londres. Arsenal reprend la main dans ce championnat.
Alors, tu parlais de facteur chance. Justement, même Benji en parlait tout à l'heure. Oui. Moi, j'y crois pas du tout. Moi, je pense que c'est le travail qui fait le succès. Alors, concernant Mikel Arteta, au début, moi, j'ai été un peu dubitatif parce que j'avais du mal avec lui. On nous a bassiné, c'était assez rébarbatif le trust de process. Je pense que pour moi, il a duré un peu trop longtemps parce qu'il a été intronisé, je pense, fin 2019 et en 2024. Et moi, l'année dernière, j'étais un peu déçu, notamment sur la course au titre, etc., etc. Mais cette année, voilà, il a réussi à me convaincre. Où là, je vois un Arteta qui se réinvente. Là, ils ont remis une pièce dans le jukebox hier en prenant les 3 points à domicile face à Luton Town. Pour moi, même si certains qualifient ce match de purge face à Manchester City, pour moi c'est une masterclass tactique de la part d'Arteta. Parce qu'on a reproché beaucoup à Arsenal à l'époque de privilégier.